Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Pierre-Yves.
Bonsoir à tous.
De Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Aujourd'hui, sur Radio Campus 106.6, nous allons faire un petit voyage, comme d'habitude, geek et ludique. Je vous propose de continuer un sujet qu'on a entamé la semaine dernière. N'hésitez pas à écouter le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus ou sur notre site anotherpodcast.fr. On parlait la semaine dernière d'un festival de jeux de société qui est annulé, mais qui va quand même sélectionner plusieurs jeux de société pour décerner prix. On appelle ça les As d'Or, et c'est le festival de Cannes du jeu de société. Et pour cette édition 2021, on avait déjà parlé de la nomination grand public. Et cette fois-ci, je vous propose d'attaquer les nominations de jeux experts. Alors, pour les joueurs plus ou moins confirmés, même si dans cette liste d'experts, on va
c'est
le
riche.
Voir en détail.
N'oublie pas, riche.
Oh, c'est pas pour tous. Non, non, enfin, je pense que le panel est assez large, en fait.
Mais c'est vrai que maintenant, les jeux qu'on dit experts... de plus en plus de matériel et donc coûte. Avant, tu avais un jeu expert pour 40-50 euros, mais maintenant tu les as pour 80-100 euros. C'est un peu dommage.
Il y a quand même un ou deux jeux qui tiennent dans une petite boîte, donc qui ont un prix raisonnable. Mais c'est vrai que dans tous les jeux experts, on a généralement des boîtes énormes. Alors les récents qu'on a pu voir, on en a parlé avec des Kickstarter. Par exemple, le jeu Conan avait une boîte démesuré, tout comme les jeux comme Doom. J'ai l'impression que plus ils sont gros, moins on y joue, bizarrement.
Bah, pas forcément, mais après, c'est vrai que quand tu sors un jeu, tu dis, j'ai besoin de 3, 4, 5 heures pour y jouer.
Pour le mettre en place.
Pour le mettre en place. Bah, c'est un peu comme quand on est passé du jeu de rôle, finalement, au jeu de plateau, en se disant, ça me prendra moins de temps. Je pense que c'est un peu la même chose. Après, là, les jeux dont vous parlez, c'est plutôt des jeux avec des figurines, avec des moules spécifiques et autres pour les sortir. Donc forcément, il y a un certain coût de production. Donc c'est normal que les jeux coûtent cher.
Et encore, on n'est plus sur la production de figurines, comme on pouvait avoir avant en étain, en métal. Ici, on est en plastique. Donc imaginez avant le prix des jeux, quoi.
T'as passé l'époque Kickstarter. Bon, maintenant, ça va encore. Enfin, c'est une mode qui est à peu près passée, mais tu as eu l'époque Kickstarter où tu ne pouvais pas faire un jeu sans mettre des figurines à l'intérieur et donc sans le faire payer le kilo plastique de ta boîte.
Alors bêtement, je pensais que le premier jeu dont on va parler, le Dilemme du Roi, était un petit jeu qui serait sur un prix assez raisonnable. Oula. Je m'aperçois que je me suis trompé.
Oui, effectivement.
Les photos avaient l'air...
On est plutôt autour des... Ouais, on est plutôt aux alentours des 80 euros.
C'est vrai qu'il n'y a pas de figurines, il y a beaucoup de cartes, il y a du papier, mais effectivement, 75 euros.
Et ce qui vient, c'est quand vous avez fini le jeu, donc en fait, c'est un jeu de campagne, un Legacy, comme on appelle ça.
Un Legacy,
quand,
ouais.
Quand vous avez joué les, je ne sais plus combien, 18 ou 20 parties, je ne sais plus. Ben, à la fin, si vous voulez rejouer, alors, enfin, je ne sais pas ce qu'on veut dire, vous devez racheter une autre boîte, ou sinon, peut-être qu'ils vont sortir des kits, ou vous repartez de zéro, des recharges. Mais effectivement, quand vous êtes arrivé au bout des 18 scénarios...
Déjà, tu es content quand tu joues à un jeu 18 fois.
Ouais, alors, comme je dis, c'est un jeu campagne, c'est-à-dire que d'une partie sur l'autre, ça garde en mémoire vos choix des parties précédentes, donc le jeu s'adapte, ce qui fait que si vous jouez avec un groupe de joueurs, que vous faites 5 parties, et que vous comparez votre jeu, vos règles, qui s'appliquent avec un autre groupe qui a aussi fait 5 parties, ce sera complètement différent. Enfin, je pense que cet aspect-là de jouer 18 parties, comme à chaque fois les règles changent, l'ambiance change aussi, enfin, je trouve ça super intéressant en fait. C'est pas comme un jeu.
C'est plus motivant.
Voilà, c'est plus motivant. Après, c'est bien de jouer avec le même groupe pour que chacun, du coup, voilà, que chacun garde bien en mémoire ce qui a été vu lors des parties précédentes. Après, alors, juste pour expliquer le jeu, je ne sais pas si vous connaissez l'application Reigns sur donc, tablette, tout ça. En fait, à chaque fois quand vous jouez, vous avez un choix à faire, donc ça vous propose des cartes en disant, je sais pas, tiens, tel conseiller vient vous voir, il vous propose de faire telle action, est-ce que vous acceptez, oui ou non? En fonction de votre réponse, Ça fait monter, admettons, votre jauge de, je sais pas, je veux dire, donc quand vous êtes un dirigeant, votre jauge de popularité, voilà,
Popularité.
puissance militaire, économie, bref. Et donc vous essayez du coup de rester en vie, parce que quand certaines jauges sont trop haut ou trop bas, bon bah automatiquement vous faites soit renverser par le peuple, enfin bref, donc vous recommencez la partie.
Mais si tu fais monter les, si tu fais prendre des décisions qui font monter les impôts, ça va faire un peu baisser ta popularité, mais ça va augmenter ta caisse et tu vas pouvoir acheter une meilleure armée. Enfin, voilà, donc c'est des choix à faire.
Par contre, avec cette application-là, vous jouez seul, donc vous pouvez aller assez vite. Alors que là, le dilemme du roi, l'idée, c'est bien que c'est un jeu narratif. Quand vous avez des dilemmes, donc autour de la table, il y a différents conseillers avec des intérêts différents aussi. Et du coup, c'est un peu tout cet aspect, jeu de rôle dont on parlait tout à l'heure, qu'on retrouve avec justement tous ces échanges autour de la table pour savoir quel choix retenir quand vous avez un dilemme en face de vous.
Le plus commun, comme tu dis, pour qu'on ait des conseillers avec des, qu'on a envie de faire des choses différentes, c'est que le jeu, dans le jeu, tu as une carte avec le royaume, et chaque joueur va prendre le rôle d'un conseiller qui vient d'un domaine de ce royaume et qui a sa propre politique et son propre désir d'avenir. Il y a un conseiller qui va être à fond dans la religion et que toutes les autres religions sont inexistantes et fera tout pour le faire, d'autres qui sont pour la sauvegarde du royaume au niveau militaire. Enfin, quand il va y avoir un dilemme proposé au roi, chaque conseiller va donner son avis et va voter oui ou non en fonction du dilemme. Et le vote qui aura reçu le plus d'apports, par exemple, moi je suis contre la religion, il y a une proposition de religion qui vient se mettre en place, je vais voter non, mais je vais mettre 3 jetons de ma réserve dessus. Non, je ne veux pas. Et si le non a eu beaucoup plus de votes que le oui, on applique les effets conséquences du non.
En sachant que vous pouvez aussi ne pas voter, justement pour garder vos ressources en fait, pour un autre vote plus important plus tard.
Parce que quand tu parles des conséquences d'un vote, et tu fais beaucoup descendre le savoir de ton peuple, le roi va descendre aussi en popularité et risque de se faire dégager par un coup d'État. Ou si le royaume, t'as un peuple qui est vraiment dans la béatitude, il va se dire, mais pourquoi on a besoin d'un roi? Et donc ils vont le dégager aussi. Donc le but, c'est de remonter et faire descendre toutes tes valeurs dans les restants neutres pour que ta propriété du roi reste neutre aussi. Il faut arriver à le conseiller pour qu'il ne se fasse pas dégager, mais en même temps pour que toi, tu as tes propres intérêts qui rentrent en jeu aussi.
T'as peut-être juste envie de foutre le bordel dans
Aussi.
la partie.
Et c'est un jeu qui est très agencé d'une façon où on va te poser une question, et si tu réponds, par exemple, là je posais la question tout à l'heure sur la religion. Ça peut être par exemple, il y a une nouvelle religion qui vient de se mettre dans une ville, dans telle partie du domaine du royaume. Est-ce que tu es pour ou contre la garder? Si le vote est oui, on va te demander d'ouvrir une enveloppe, je vais dire une bêtise, mais la B17. On prend les cartes sans les regarder et on les met en dessous de la carte dilemme du roi. On sait que ta décision va revenir plus tard, tout de suite ou après, en fonction des décisions que tu as prises.
Donc ici, on est sur un jeu de 3 à 5 joueurs et à partir de 14 ans. Donc effectivement, on est bien dans une gamme experte. À compter un bon 2 heures pour une bonne partie.
Donc oui, on compte 1 à 2 heures. Ils annoncent 1 à 2 heures. Moi, bon, déjà, de toute façon, les jeux qui annoncent des durées, c'est toujours un peu bidon, ça. Ça dépend des joueurs. Surtout certains joueurs qui vont beaucoup négocier et baratiner pendant une partie comme ce genre de jeu. Donc ça peut être très très long. Je compte plutôt 4 5 heures pour une partie. Et comme il y a plusieurs épisodes, plusieurs scénarios, bah des fois tu vas les enchaîner, quoi, parce que t'as pas envie d'attendre la semaine ou le mois d'après pour faire tout de suite la suite. Surtout avec les jeux Legacy, c'est trop
Surtout
tentant.
que ouais, t'as des personnes qui vont soit un peu plus sur le roleplay que sur le vrai jeu en lui-même et qui vont prendre à
Exactement.
cœur leur maison, surtout que t'as un petit texte qui t'explique vraiment l'historique, le lore, tout ça du domaine que tu représentes en tant que conseiller. Donc tu peux vraiment palabrer comme pas possible et faire des vraies séances de jeu de rôle, quoi.
Ce qui pourrait être amusant, c'est d'une partie à l'autre, tu changes de rôle, tu changes de maison. Mais après, tu fais ce que tu veux dans ce genre de jeu. Donc c'est un jeu qui est édité et publié par Yello, enfin la version française. Alors les noms des auteurs, s'il y a Lorenzo Silva, ça j'arrive à le prononcer. L'autre c'est Jalmar Arch, ça doit être allemand. Et c'est le premier jeu qu'ils font ensemble. Ils ont tous les deux fait des jeux qui ont bien marché, qui sont assez connus, mais c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble. Ah.
Du coup, oui, on vous recommande la version française parce que, à moins d'être vraiment très bon en anglais, donc tout le groupe, comme il y a beaucoup d'échanges, il vaut mieux
Pour le
choisir la version
narratif,
française.
effectivement.
Il y a pas mal de noms et de mots qui ont été exprimés enfin, de noms de lieux ou de noms de divinités, de noms de cas, enfin, qui ont été arrangés avec des mots français pour donner un peu plus de peps à la partie.
Donc on verra s'il sera élu meilleur jeu expert de l'année par le Festival de Cannes avec les As d'Or. Je vous
Alors,
propose
Juste à noter quand même qu'il avait été nominé pour gagner le Spiel des Jahres 2020. Il n'a pas été retenu, mais en tout cas, il a été nominé aussi.
Ça doit booster un peu les ventes, hein. Et surtout à ce prix-là. Alors, on parle d'un prix important, mais tous les jeux Legacy, généralement, sont assez chers. Et en plus...
Parce qu'il y a beaucoup de matériel.
Il y a beaucoup de matériel, et ce qui est dommage, c'est que tu ne peux pas le revendre puis, derrière.
Non, ben, tu ne le revends pas, tu fais le plaisir, quoi. Il y a du matériel, mais c'est du matériel spécifique, parce que, qui demande un travail d'impression particulier, parce qu'effectivement, c'est à base d'autocollants, c'est du matériel un peu spécial, quoi.
Après, ça dépend si vous prenez le jeu Charterstone. Bon, déjà, il était vendu il n'y a pas très très longtemps à un prix vraiment très bas. Ils vous vendent un kit de recharge qui vous permet de repartir de zéro. Alors déjà, quand vous terminez la campagne, vous pouvez continuer à jouer après. Certes, les règles ne bougent plus, mais vous pouvez continuer à jouer après. Et ils vous vendent un kit qui vous permet de repartir de zéro. Donc en fait, juste des cartes de base vierges et un nouveau kit d'autocollant. Du coup, l'investissement que vous faites pour recommencer à jouer, bah, vous ne devez pas repayer la boîte complète.
Moi, j'avais testé Machikoro, qui était le Legacy de Miniville. Et tu n'as pas à déchirer vraiment de cartes. Et limite, tu choisis un côté de carte. Si tu le notes sur le côté, en fait, tu peux, à la fin, une fois que tu as terminé, tu peux tout réimpacter.
Tu fais une espèce de sauvegarde.
C'est ça. Tu peux faire semblant. C'est un peu comme un Lego que tu remets dans la boîte. Tu peux dire, bon, il est quasiment neuf dans le sens où j'ai tout remis à sa place. Un nouveau nominé pour l'As d'Or du Festival de Cannes. Et ici, on est bien sûr dans la catégorie expert. On va vous parler de Paléo.
Alors, on change complètement par rapport au jeu d'avant, parce que ce coup-ci, c'est un jeu coopératif. Donc, c'est tous les joueurs gagnent ensemble ou perdent ensemble. Donc, vous n'êtes plus du tout dans cet esprit de compétition, en fait, et puis de coup fourré qu'on peut avoir donc, dans le jeu Le Dilemme du Roi.
Et ici, on va partir très loin en arrière, puisqu'on va être dans l'âge préhistorique, où vous allez incarner des hommes de Cro-Magnon, je pense, et récolter plus ou moins des ressources et essayer de survivre sur plusieurs jours.
Le but final étant de laisser son empreinte artistique en dessinant un mammouth sur des murs de célèbres grottes. Et effectivement, comme tu as dit François, pour réussir à faire tout ça, déjà il va falloir réussir à faire survivre son équipe. Donc chaque joueur incarne plusieurs personnages en fait, un groupe de personnages avec des compétences différentes. Il va falloir réussir à les faire survivre, avec de la chasse, des vêtements, donc partir à la cueillette aussi, et puis développer de nouvelles technologies, donc avoir des idées, se soigner, et puis à la fin, donc en prenant des risques en fait, vu que vous allez tirer des cartes à chaque tour, mais vous n'allez en voir que le verso, donc admettons, vous allez voir une forêt, vous dites tiens, là c'est plutôt du bois, donc avec plutôt de la cueillette, admettons.
Alors, ça dépend, en fait. Voilà, t'as soit la rivière, la forêt, la grotte, et soit... Alors, c'est là qu'il va avoir une discussion entre chaque joueur. Est-ce qu'on va retourner cette carte? Est-ce qu'on va peut-être récolter des ressources? Ou il peut également y avoir des effets un peu indésirables.
Genre, tu tombes sur un pangolin.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur a son paquet de cartes, et il va prendre les trois premières cartes de son paquet. Tout le monde le fait en même temps, et comme disait Pierre-Yves, tu peux voir que les rectos ou les versos de tes trois premières cartes, et si on se rend compte qu'on peut tous aller avoir une carte dans la rivière, et qu'il n'y en a qu'un seul qui a une carte sur la montagne, il se dit, il n'y a que moi qui peux aller dans la montagne chercher de la roche, et peut-être de la peau si je peux rencontrer une bête là-dedans, je vais peut-être prendre cette carte-là, et vous, je vous laisse aller justement dans vos cartes rivières. C'est du coopératif, donc.
Et du coup, effectivement, il faut éviter de perdre des personnages de son groupe, parce qu'en faisant ça, on s'affaiblit. Et du coup, c'est toute l'équipe en fait qui en pâtit.
Il faut noter que le jeu a été créé par, alors attention, prononciation du nom, Peter Rüstermeier, ça va, c'est un Allemand, et il est archéologue à l'Université de Cologne, donc il a créé le jeu tout seul, avec l'aide d'un illustrateur, bien sûr, donc on peut imaginer qu'il y a un peu de réalisme, façon de parler, que c'est assez conforme à la réalité. Et peut-être même qu'on peut classer dans la catégorie des jeux un peu éducatifs.
Alors c'est ça, même s'il est dans le jeu expert, on peut y jouer à partir de 10 ans. Ce qui est bien dans ces jeux coopératifs, c'est qu'on peut accompagner les autres personnes, hein, sans essayer de leur marcher dessus.
Le jeu sera disponible en mi-mars. Et il sera édité par Zedman Games.
Bon. Il n'y a pas grand chose de nouveau à part la gestion des cartes. Comme tu disais, qu'il y a un petit cimetière. Parce que quand tu retournes une carte, si tu as une créature dessus, par exemple un mammouth ou quoi que ce soit, que tu dis je vais aller le chasser, donc je vais faire une résolution de la carte pour avoir la viande, pour pouvoir nourrir mes personnages au niveau de la phase de nuit. J'ai tué le mammouth, je n'ai plus accès à la carte, je vais la défausser dans le cimetière, elle ne reviendra plus jamais dans mon paquet. Par contre, si j'utilise la carte pour faire un effet d'aide envers un autre joueur qui a besoin des compétences de mes personnages, la carte, je la remettrai dans ma défausse et elle pourra revenir plus tard dans le jeu. Donc, il y a quand même de bonnes idées dans le jeu, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose d'extrêmement nouveau qui mériterait un As d'or.
Ça rappelle un peu l'âge de piège.
Les parties durent quand même entre 60 et 90 minutes, donc peu long pour un jeu familial.
Pourtant, tu gagnes, comme tu disais, en arrivant à mettre toutes les tuiles de l'illustration de mammouth que tu as peint dans ta caverne pendant la phase de nuit, mais tu perds la partie si tu mets ton 6e ou 7e crâne de perte de personnage de ton clan à la place. Donc c'est tout ou rien. Et tu as l'impression, de, quand tu regardes le jeu, que tu peux rapidement perdre des personnages de ton clan. Donc c'est un peu. Enfin, ouais, j'ai du mal.
Il indique 30 minutes à 1 heure sur la boîte. Donc tu confonds peut-être avec un autre jeu, Pierre-Yves.
Non, mais c'est parce que Pierre-Yves joue avec des gens qui ont du mal à comprendre les règles.
Oui, puis moi, je suis aussi très long avant de décider, donc c'est pour ça. Après, je pense qu'un jeu où tu peux perdre des personnages, voire même tu peux perdre complètement, tout le groupe peut perdre, pense que ce n'est pas un jeu que tu peux classer dans le familial, en fait. Parce que familial, bah, potentiellement, des enfants peuvent jouer. Et ça me paraît très sévère, en fait, de voir ces personnages mourir dans un jeu.
Bah ouais, mais ça te force à parler.
Mais ils meurent pas, ils s'endorment.
Après, ça te force à faire une discussion, à prendre des décisions sur. On n'a pas beaucoup de nourriture pour passer la prochaine nuit, mais par contre, tu as besoin de mon personnage pour réussir à passer ta carte d'épreuve. Ça nous permettra de peindre un petit bout de. Ça te permet justement, quand on dit dans les jeux familiaux, de mettre en place.
Le sens du sacrifice ?
Pas forcément ça, mais des mécaniques de jeu qui te permettent d'aller vers des jeux peut-être plus évolués, parce que tu n'es pas forcément la cible tout de suite des jeux experts. Pour moi, ça, Paléo est un jeu de ce style-là. Je le sortirais vraiment dans un public qui n'est pas habitué au jeu, pour leur montrer des mécaniques qui les forcent à aller vers un terrain qu'ils n'ont pas l'habitude, mais sans être trop exigeant dans ces mécaniques.
Bah, à voir, écoute.
Ouais. Après, peut-être que je me trompe complètement et que.
En tout cas, je sens que la majorité n'est pas très convaincue par ce jeu. Alors, non pas qu'on n'en ferait pas une bonne partie, mais pour être le gagnant de l'As d'or.
Tu vois, le jeu précédent était un jeu Legacy, j'aurais bien vu ce jeu-là en mode Legacy, où tu fais évoluer ta tribu, etc., au fur et à mesure des années.
Peut-être ton mec a perdu un bras, une jambe, et puis tu continues avec.
Je pense qu'on cherche d'autres jeux aujourd'hui, en fait. Et c'est peut-être pour ça que, du coup.
Regarde bien, à part le jeu Le Diem du Roi, qui est semi-coopératif, parce qu'il faut que tout le monde s'entende pour pas qu'on perde envers le jeu, mais tirer l'épingle à soi. Les autres jeux qui sont présentés à l'As d'Or, en expert, c'est des jeux coopératifs.
C'est vrai.
T'as une volonté du jury de montrer et de monter les jeux coopératifs vers le public.
Ouais, c'est pas forcément une volonté, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus au fond de ces dernières années.
Avant, c'était les jeux en mode solo, maintenant c'est les jeux coopératifs. On verra l'année prochaine.
Oui, après même dans les jeux familiaux, c'était un peu la même chose en fait, avec Top Ten, Ghost Adventure, et puis j'ai oublié le dernier, Micro City, c'est ça. Enfin, c'est un peu la même chose, ce sont aussi des jeux coopératifs.
Après, il y a toujours ces coopérations où à la fin il y a quand même un gagnant où on peut avoir une échappatoire.
Voilà,
mais je pense que le premier jeu qui a fait ça, c'est Dune en fait, hein, non ? C'est ça, c'était un coopératif, mais à la fin il n'y en a qu'un qui gagne, non ? C'est
ça n'a jamais été coopératif.
Tu peux faire des alliances parfois, me semble-t-il.
Oui, c'est ça, qui dure jamais longtemps.
Juste, je tiens quand même à corriger, je me suis trompé, non, donc c'est Micro Macro Crime City, donc l'un des jeux familiaux qui avait été proposé.
Et dont on a parlé la semaine dernière. Allez, je vous propose de lancer un thème back-to-back qui fera suite à une actualité qu'on a pu voir récemment. Ici, on part en Corée du Sud, puisqu'une intelligence artificielle a été créée pour reprendre la voix de Kim Kwang-seok, un chanteur célèbre folk qui a disparu depuis plus de 25 ans. Et cette intelligence artificielle nommée la Singing Voice Synthesist a récupéré une vingtaine de chansons de Kim et s'est exercé sur plus de 700 chansons coréennes. Et ils ont réussi, comme ça, à interpréter un titre sur la chaîne coréenne de la SBS.
J'ai devancé la question qu'on a à François, je le sentais. Et vous, quel chanteur vous auriez voulu faire revenir ? J'ai anticipé, hein, ouf.
Alors, bah tiens, Dominique.
Et donc, j'ai cherché un chanteur qui pourrait revenir, enfin qu'on pourrait faire revenir artificiellement pour se venger. parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a repris. Et qui c'est qui a repris un chanteur français Gad récemment Elmaleh. Ce bon vieux Gad Elmaleh qui a enterré Nougaro dans un magnifique album jazz. Donc je me dis, ah, si Nougaro revenait, qu'est-ce qu'il lui mettrait dans la tête ?
C'est spectacle.
Alors, il y avait une de ses chansons alors j'ai hésité entre plusieurs chansons. Il y a une chanson qui s'appelait La Neige. C'est un petit peu d'actualité. Quand je regarde par la fenêtre, ouais, c'est bon. Il y a une autre chanson qui s'appelait Ça fait mal. Et ça aurait pu être adapté à ça. Quand Nougaro découvre que Gad Elmaleh le chante. Mais non, j'ai mieux. J'ai une chanson qui parle de boxe. Une chanson qui s'appelle 4 boules de cuir. Donc j'imagine bien Nougaro qui reviendra avec des gants de boxe.
Je crois qu'il enlèverait les gants carrément.
Il mettrait des fers à cheval dedans.
Boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, ô déesse de pierre. 4 boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. 4 boules de cuir sur 4 pieds de guerre bombarde le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. 4 boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de champion. Box, 4 boules de cuir et soudain de qui roule, répandant leur chapelle dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, box. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche. Et j'aurai ton sourire, boxe comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points. Même si dans les coins, box, box, j'y vois encore luire. 4 boules de cuir, 4 boules de cuir. Box, 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 box.
Voilà, c'était Nougaro avec 4 boules de cuir. On parle dans ce challenge back-to-back des chanteurs qui nous ont quittés, mais qui pourraient revenir soit pour se venger, comme Dominique l'a souligné, soit pour juste rechanter une chanson. On enchaîne, hein, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Un peu de jeu de société, puisqu'on est ici sur une aventure ludique grâce aux As d'Or. On enchaîne avec un jeu de la catégorie expert qui est nominé pour cette édition de 2021. On va parler de Tainted Grail. On parlait tout à l'heure en ouverture des gros jeux, des grosses boîtes avec un gros prix. Alors là, on est carrément dedans.
Ah, le jeu dépasse les 100 euros, donc effectivement, il faut commencer à sortir le gros billet pour pouvoir y jouer. Après, certes,
ah, mais là, il y a de la figurine.
C'est ce que je veux dire, il y a du matériel dedans. Par contre, vous en avez pour votre argent et ça pèse bien lourd quand vous devez bouger la boîte.
D'ailleurs, c'est un jeu coopératif juste pour porter la boîte, c'est ça ?
C'est ça. Pour la payer. Tu te cotises. Ah, c'est l'avantage des jeux coop. Tu te cotises pour payer la.
Alors, ici, on est à un carrefour entre plusieurs types de jeux. On va flirter légèrement avec le jeu de rôle. On va devoir effectuer plusieurs petits scénarios. On va un peu flirter aussi avec, alors j'allais dire le RTS, mais est-ce qu'on peut parler de RTS en jeu de société ? Un peu les jeux de wargame, puisque vous allez bouger des figurines. Alors même si on est très loin du wargame, je vous le rassure. Est-ce que j'oublie un type?
Narratif aussi.
Deck building et narratif.
Oui, pour des parties qui, là, durent plutôt dans les 3, 4, 5 heures à chaque fois.
Et on parlait tout à l'heure des types de jeux à l'ancienne où on pouvait jouer à un joueur. Ici, c'est de 1 à 4 joueurs. Donc si vous êtes bloqué chez vous, vous allez pouvoir sortir votre grosse boîte, passer déjà une demi-heure à l'installer et vivre une aventure en façon solitaire, un peu comme un loup solitaire qui parcourrait les contrées ludiques. Alors le jeu s'appelle Tainted Grail, la chute d'Avalon.
Fiche technique, il est proposé par Edge, qui ont l'habitude de faire des grosses boîtes de jeux et des figurines. C'est un jeu, alors apparemment il est polonais à la base. Je ne vais pas prononcer les noms des auteurs, non, ni des illustrateurs non plus, puisqu'ils sont beaucoup. Et par contre, il ne sera pas disponible en version française avant le mois d'août 2021.
Il y a juste...
Donc, si jamais ils remportent l'As d'Or, et ben, ils auront le temps de produire plus de boîtes.
Il y a juste les versions françaises du Kickstarter qui avaient été livrées en 2020, qui donc là l'ont su, mais effectivement, pour le grand public, donc Edge le fera pour la date que tu as donnée.
Oui, d'ailleurs, je dis une petite bêtise quand même, parce que même si le 27 février, quand on sera annoncé les résultats, on sait que c'est Tainted Grail qui a gagné, les éditeurs, pour le sortir au mois d'août, ça va pas suffire que 6 mois, même pour commander des boîtes en plus. Et quand tu veux commander des boîtes de ce type de jeu à l'avance, il faut aussi prendre au moins 6 mois, 1 an, je pense.
Alors, à noter quand même que c'est un jeu assez punitif, dans le sens où si vous aimez les jeux vidéo, vous connaissez peut-être le jeu Dark Souls. Bon, y a des fois, vous avez beau essayer, ça marche toujours pas, parce que donc c'est vraiment une difficulté très élevée. Là, le jeu, c'est un peu pareil. Hein. Si vous faites quelques erreurs, très rapidement, vous revenez à la case départ. Donc, faut aimer.
Est-ce que c'est un jeu évolutif dans le genre tu apprends tes erreurs et tu progresses au fur et à mesure des essais ou pas?
Oui.
C'est un jeu. Alors, c'est aussi un deck building. Donc, tu tires des cartes et tu améliores les cartes que tu as en main. Oui, enfin, tu apprends effectivement de tes erreurs et quand tu recommences, tu évites de refaire la même chose. Il y a tout un jeu de gestion de ton personnage, de sa fatigue, je dirais aussi. Tu as un peu un aspect grind, donc tu as envie de faire des combats pour monter en compétence, en expérience. Le problème, c'est que, on sait que vous n'aurez pas assez de temps, d'équipement, tout ça, pour faire toute la carte complète. Donc, il y a un moment, c'est tant pis, je passe telle et telle porte, par contre, je m'arrange pour aller à la fin du scénario et gagner le scénario. Donc c'est toute cette gestion-là aussi qui est à prendre en compte. Et du coup, c'est un peu un stop encore, j'ai envie de dire, mais il y a un moment, il faut savoir dire stop pour finir le scénario.
Dans Tainted Grail aussi, tu dois, à chaque carte que tu vas aller visiter et faire de l'exploration, tu as un numéro sur la carte qui t'envoie sur un dossier où tu vas lire la description de la carte, qui va te proposer des actions, des quêtes, plein de choses, et tu vas pouvoir prendre du temps, dépenser du temps pour le faire. On va te donner une rumeur en te disant, dans ce scénario-là, peut-être que dans l'éther du Nord, il y a un forgeron qui a fait une superbe arme mythique et tout, qui pour toi, pour ta quête, peut-être intéressante ou non, mais est-ce que tu vas perdre du temps à aller explorer les cartes qui se trouvent au Nord pour avoir l'arme? Est-ce que le coop, est-ce que tu auras les prérequis pour le faire? Enfin, tu as énormément d'aventures à passer. Est-ce que tu vas perdre du temps à faire les quêtes annexes? Est-ce que tu vas perdre du temps à aller récolter des ressources pour t'aider à explorer? Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu et la courbe d'apprentissage est assez élevée.
Si on regarde les avis, les gens soulignent et félicitent la narration, l'histoire, le matériel, les mécanismes. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se plaignent un peu de la difficulté. Alors là, pour le coup, on est dans la catégorie expert, hein, 100%. Et également les combats qui peuvent... Alors les gens se plaignent alors qu'ils sont que deux. Ils se disent, quand on est quatre, ça doit vraiment être le creux, la bannière pour finir un combat. Et de toute façon, vu la difficulté, on va souvent fuir le combat plutôt que le terminer jusqu'à la fin. Ça reste un très bon jeu pour jouer donc avec quelques amis, surtout si vous avez du temps devant vous. Ici, on parle d'une campagne qui peut durer jusqu'à 35 heures de jeu. Ici, on est un peu dans le jeu de rôle, mine de rien.
C'est parfait pour le confinement.
Les deux seuls défauts que j'ai pu voir sur ce jeu, qui est pourtant, après, quand on aime les jeux narratifs, les jeux où il faut se prendre un peu la tête parce que c'est un jeu difficile, faire du try and retry, comme on peut dire pour certains jeux vidéo, il peut être là appliqué à ce jeu de société. Quand tu as d'énormes gestions de ressources à faire pour débloquer une partie de carte, t'as l'impression que c'est une sorte de checkpoint à tout prix à faire et t'as l'impression de perdre du temps juste pour valider de pouvoir explorer une autre partie de carte.
La mécanique peut prendre le dessus par rapport à un Arceon, par
voilà, moment, et donc ça te fait décrocher un petit peu de l'immersion et te dire mais pourquoi ? C'est là ça te pose un petit souci. Et aussi le fait que quand tu connais le jeu, pas forcément les cartes, les machins, c'est que tu les rencontres, que ce soit des combats, des choses à lire ou autre, ne sont pas adaptées au lieu où tu te trouves. Tu peux très bien rencontrer le même ennemi que tu sois dans la partie sud de la carte, dans des marais, dans des plaines, dans des montagnes. T'as pas forcément un vrai lore de construit par rapport au jeu. Et donc, à un moment donné, tu vas tirer la carte, tu vas rencontrer l'ennemi, tu vas dire, ah bah oui, lui, je l'ai rencontré dans tel scénario, bah, il faut que je le batte comme ça. Enfin, t'as des automatismes qui vont se mettre en place et qui, là, encore une fois, vont te sortir du jeu narratif. T'auras plus l'impression de faire un jeu et t'auras juste les mécaniques qui vont reprendre le dessus et tu sais, si t'as créé ton jeu, tes cartes en fonction, bah, tu vas le battre en une ou deux cartes et puis basta.
Au moins, t'apprends à gérer un peu les combats qui semblent difficiles. Bon, tu gagnes un peu du skill. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage, mais après, ça devient compliqué. Hein. On n'est pas ici sur un set de figurines énormes, donc on peut comprendre que les combats soient répétitifs.
Après, je pense que c'est un type de jeu, on aime ou on n'aime pas, en fait. Et enfin, si vous n'aimez pas, c'est difficile, je pense, d'apprendre à aimer au fur et à mesure en y jouant. Parce qu'en plus, comme je disais...
C'est pas le genre de jeu que tu offres à quelqu'un qui n'y connaît pas, ou c'est pas le genre de jeu que tu t'offres et dis « Ah, je connais pas le jeu de société, je vais tester avec celui-là. »
Exactement.
C'est sauf clairement si prévu pour faire un connaisseur, c'est clair.
Voilà. Sauf si t'as envie de t'en faire un ennemi. Mais bon, ça fait un peu cher quand même.
Sauf si le vendeur n'a pas vendu cette boîte depuis un moment et puis il prend le premier pigeon.
C'est une jolie promo, je dis pas. Hein.
Ah. Et dans ce cas-là, tu serais prêt à jouer tout seul à ce genre de jeu, Dominique ?
Vu la place qu'il prend, c'est pas gagné. Non, des jeux solo, j'en ai déjà plein qui prennent moins de place, qui sont plus rapides et qui sont très très riches aussi, même s'ils tiennent dans des petites boîtes.
En joueur solo, tu peux, comme c'est le type de jeu, que tu sois 1 ou 4, ça, entre guillemets, c'est plus le temps de jeu qui va prendre le dessus.
Oui, que c'est pas la même expérience. Oui.
Tu peux jouer en solo, mais prendre deux personnages. En faire un qui est à fond dans la baston, un qui est à fond dans la diplomatie, et parcourir ton aventure comme ça.
Si on m'invite à faire une ou deux parties de test, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Je l'achèterai pas.
Allez, je vous propose d'enchaîner en continuant ce thème de musique back to back, les chanteurs qui nous ont quittés mais qu'on aimerait bien voir revenir. Je vous propose mon choix. J'avais pensé à Renaud, mais Dominique m'a souligné que Renaud nous a pas vraiment quittés.
Au moment où on enregistre l'émission, il n'est pas mort.
C'est vrai. Je voulais passer un peu de François Corbier, puisque alors là, pour le coup, c'est un artiste qui nous manque beaucoup. Mais je vais plutôt partir sur un artiste qui n'a pu faire qu'un seul album, qui pour moi reste une des plus belles voix du rock. Je parle ici de Jeff Buckley, qui, après son premier album, a décidé d'aller nager dans la rivière du Mississippi. Et malheureusement... n'est jamais revenu et il était en train d'enregistrer son deuxième album.
Il a rejoint à la nage l'île où se trouvent Michael Jackson et Elvis Presley, peut-être.
Peut-être, écoute. Ici, on va s'écouter une version alternative de Eternal Life. Il a sa vie éternelle, du coup.
greatness of the world. What is love?
C'était Jeff Buckley avec Eternal Life. On continue dans l'univers ludique avec un nominé pour l'As d'or du jeu de Cannes 2021 et c'est le dernier cette fois-ci de la catégorie expert. Ici, on va parler d'un jeu. Alors, on en a déjà parlé longuement dans l'émission.
Oh oui. Et on va aussi parler du coup du jeu qui a gagné le...
Spear.
Bien. Bravo, François.
J'ai pas mis de S, tu as vu ?
C'est la première fois qu'il arrive à le prononcer.
Bravo.
On attendait tous pour voir si elle allait se planter, mais non. Dommage.
Ah, ils l'ont mis dans expert. C'est vrai que ça peut être expert. Je l'aurais même mis dans la... Alors, peut-être pas dans la catégorie enfant, mais on aurait pu le mettre dans la catégorie famille. Famille aussi. Mm-hmm. Ah. Mais par contre, au niveau catégorie de prix, on n'est plus du tout dans le même genre. Puisque là, on peut le trouver à peu près entre 12 et 15 euros. Ouais,
attention, parce que quand on dit que c'est un jeu de pli un peu comme le tarot ou la belote... Si tu dis que le taureau et la belote, c'est un jeu familial, tu risques de te faire des amis aussi, je pense. Hein. Donc attention.
Ça dépend. Tu peux y jouer en famille, tu peux y jouer avec des experts, tu peux des enfants, sans doute, etc. J'imagine, mais...
Bah non, tu peux pas, peux pas emmener les enfants au café, Dominique.
Ah, mais en Angleterre, ça se fait très bien.
Alors, qu'est-ce que ce jeu, The Crew ? Alors ici, on part sur un jeu d'ambiance familiale avec des cartes qui se jouent.
En gros, c'est le tarot coopératif.
Qui se joue de 2 à 5 joueurs. Vous pouvez jouer à partir de.
Et même tout seul.
10 ans. Ah, on peut jouer tout seul à The Crew ?
Bon, faut savoir compter jusqu'à 10, 9.
Il faut avoir une petite connaissance du comptage de cartes. Pas le forcément du comptage, mais de se rappeler. Alors, j'avoue les cartes. Voilà.
Il y a des petites. Alors, tu peux y jouer, mais pour jouer bien et apprécier toutes les finesses du jeu, il faut avoir une petite expérience, façon de dire, de jeu, style manie, belote, tarot. Enfin, tu sens la différence entre. J'ai joué avec des gens qui avaient déjà joué au tarot, à la belote, même si ça faisait longtemps, des gens qui connaissaient pas ce genre de jeu, qui avaient jamais pratiqué. Et ben, tu sens la différence. Ça les attire, hein, faut leur expliquer. Il y a des. Mais puis, tu sens la différence.
Ce qui est bien avec un jeu comme ça, en fait, c'est que si l'équipe perd, tu peux toujours trouver une tête de turc autour de la table en disant « Ah, mais t'as vu comment t'as mal joué ?» quoi. Ça défoule, c'est intéressant ça aussi. C'est une sorte
bizarre,
de calmant.
Je suis sûr que ça marche dans tous les groupes. Il y a toujours le mec qui se fait toujours engueuler, qu'il soit capitaine ou non. Hein. Alors ici, on rappelle vite fait les règles. Hein. Encore une fois, je peux vous inviter à réécouter les podcasts de l'émission si vous voulez.
C'est le plus petit jeu, mais c'est pas forcément plus facile à expliquer, j'avoue.
Voilà, on élit un capitaine qui va choisir des objectifs et... Les gens vont devoir, avec ces cartes qui ont 4 couleurs différentes, si je me trompe, qui vont de 1 à 9, chacun doit remporter une plie spécifique ou non. Il y a plusieurs objectifs et ce qui est génial, c'est qu'il y a un petit mode narratif où vous allez devoir effectuer une série de missions qui sont toutes différentes. Donc c'est un peu un mode où une fois que vous retrouvez, on fait « Ah ben on en était où à The Crew ? On va enchaîner la mission. Ah ouais c'est vrai, là on avait 5 objectifs à faire. Qui... Ah ouais mais celui-là il fallait le faire en premier, celui-là en cinquième, oh là là, ça va être compliqué. » Et des fois, les parties les plus simples sont les plus dures et des fois l'inverse se résout.
Oui, parce que l'objectif, comme tu recommences, tu peux recommencer plusieurs fois le même objectif, mais comme les cartes sont mélangées et distribuées au hasard aux joueurs, eh ben, tu vas pas forcément avoir les mêmes plis en main et ça va être une partie complètement différente. Alors, c'est ça qui est étonnant.
Attention, tu parlais d'un jeu narratif. N'oublions pas que vous pouvez donner quelques indices aux autres joueurs sur votre jeu, mais autrement, vous ne pouvez pas parler.
C'est très important de dire que c'est un jeu sans communication.
Ouais, je parlais narratif.
Tu connais les cartes que t'as en main et c'est tout.
Je parlais du côté narratif. Vous avez un livret disant la première mission, vous arrivez dans le vaisseau.
Le background.
Un jeu thématique plutôt. Pas un jeu.
Tout d'un coup, là, il n'y a plus d'oxygène. Vous devez absolument réparer. Enfin, voilà. C'est ça qui est assez sympa d'avoir un petit fil conducteur.
Tu peux très bien y jouer sans lire du tout ça et dire juste aux gens on doit faire trois trucs verts, quatre trucs bleus et c'est tout, quoi. Mais bon, c'est pas pareil.
Alors, peut-être pour...
Mais c'est très surprenant ce jeu, comme je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rejouable. C'est très étonnant comme certaines missions sont difficiles à réaliser ou surprenantes.
Je pense qu'un aspect intéressant qu'on n'a pas dit, c'est autant les autres jeux prenaient beaucoup de place, autant celui-ci en prend très peu. Donc, du coup, ça laisse de la place, genre, pour mettre son verre de bière juste à côté. Je dis ça, enfin bon, je pense que ça peut être un aspect intéressant.
On a des atouts, bien sûr. Donc voilà, nous, on peut que conseiller ce jeu. Il a déjà gagné un grand prix. Alors, est-ce que l'As d'Or va justement récompenser un jeu qui a déjà été récompensé au Spiel ?
C'est un jeu qui a fait beaucoup de buzz. Hein. Bah, oui, je pense que la dizaine de personnes qui font partie du jury ne tiennent pas du tout compte de ça. Quoi. C'est des gens qui viennent d'univers complètement différents. Donc...
Il y a un petit vote de ma part sur l'As d'Or.
Alors qu'il en a même pas besoin, de la réussite commerciale, parce que c'est un jeu qui a fait le buzz dans le monde entier et qui s'est super. Je sais pas où en sont les ventes actuellement,
mais qui était indisponible en boutique au bout
d'un moment. Pour faire simple, le lundi où il sortait en boutique, le lundi il était en rupture de stock. Si tu n'avais pas appelé la boutique en disant vous m'en mettez un de côté, c'était fini, tu devais attendre 3-4 semaines. Il y avait
même
un reprint.
Si t'avais appelé.
Ou tu achetais, tu trouvais une version étrangère, parce qu'il n'y a rien. Enfin, les livrets sont même disponibles sur le site de Yellow, parce que c'est Yellow l'éditeur, le traducteur français. Donc, tu peux y jouer. Il y a même une version en ligne, on peut jouer en ligne. Et pendant le confinement, Yellow a sorti des missions spéciales, des packs de missions spéciales au format PDF qu'on pouvait télécharger, avec des missions très, très amusantes. Il faudrait qu'on les teste aussi à l'occasion, celle-là. Donc, c'est un jeu qui est très, très applicable comme ça. Même, il existe, on peut jouer en ligne. J'ai joué en ligne.
Après, à noter, en 2015, et en 2018, le Spiel et l'As d'Or, en fait, c'était les mêmes jeux. Donc, c'était Colt Express en 2015, c'était Azul en 2018. Donc, un jeu peut très bien gagner dans les deux compétitions.
J'ai retrouvé pour jouer à The Crew en ligne, c'est sur le site boardgamearena.com, qui est un site où on peut jouer à plein de jeux de société gratuitement, en français, en anglais, dans toutes les langues. Et donc, j'ai déjà fait plusieurs parties sur ce site de The Crew et ça marche très, très bien.
Alors, en tout cas, dans les backstage de l'émission, c'est le jeu qui a le plus été joué avant l'émission.
Même pendant l'émission, on était encore dans les studios.
Mais après, est-ce qu'ils vont pas justement le... Bon, je sais que le jury de l'As d'Or n'a rien à voir avec le festival de l'As d'Or en lui-même, mais est-ce qu'ils vont pas mettre The Crew en As d'Or parce que ça fera une sorte d'hommage au tournoi de Belote, Tarot et compagnie qui ont lieu et qui a déjà été...
Ça n'a rien à voir. Quand ils prennent leur décision, c'est vraiment sur leur expérience.
C'est pour ça que je te dis que je sais que ça n'a rien à voir, mais ça ferait un bel hommage à ce type de jeu qui sont un peu maintenant passés à l'as, alors qu'ils sont encore vraiment une renommée. Les tournois de belote et compagnie, de tarot, d'échecs, de bridge même, qui ont lieu lors du festival de Cannes de l'As d'Or.
On est loin du festival de Cannes des films, où en fait... dans les films, il y a vraiment de la tractation derrière.
Des fois, c'est politique, hein, les choix.
Voilà, ici, on a quand même des joueurs qui votent, quoi.
Ah. Ouais, non, pas forcément des joueurs, hein, parce qu'il peut y avoir des professeurs. Enfin, c'est vraiment des gens très différents.
Oui, quand tu regardes les membres du jury, c'est plutôt des ludothécaires, des journalistes, des animateurs web et tout ça. Donc, pas forcément des... Enfin, ce sont des joueurs, bien sûr, mais pas, je veux dire, pas n'importe quel kidam, en fait.
Mais justement, qui apporte une horizon complètement différente et n'est pas que focus sur des gamers.
Tout à fait.
Allez, une autre petite musique, puisqu'on en a beaucoup à passer dans cette émission pour changer. Pierre-Yves, comme tu nous as laissé une petite surprise sur ton titre, je te laisse passer en troisième position. C'est surtout parce que Reynald a choisi un morceau de 7 minutes.
Mais il va être coupé avant la fin.
Quoi. Bah, donc, comme
Moi, j'ai pris une chanteuse américaine qui est décédée il y a 2 ans, Aretha Franklin, avec le titre Think. Donc, pareil, hein, un titre qui a été repris de nombreuses fois. Alors là, c'est Think, en sachant que le thème que j'ai choisi, c'est celle qui est reprise dans le film des Blues Brothers. Donc je trouve un peu plus péchu en fait. Bon, et pourquoi Aretha Franklin? Bah parce que bon, elle était surnommée The Queen of Soul, et puis bah après pour tout ce qu'elle a représenté, tous les combats qu'elle a menés pendant sa vie, donc bon, je trouve que c'était un bel hommage. Et
et puis c'est aussi ton choix parce que Chantal Goya n'est pas encore morte. Enfin, je dis ça à l'heure de l'enregistrement de l'émission.
Effectivement. Mais il y avait Dorothée aussi, j'hésitais. Mais bon.
Ouais, quitte à non, prends Annie Cordy alors à la place.
Autrement c'était Johnny, hein, donc du coup j'ai pris Aretha à la place.
Comme disait Dominique, c'est plus ou moins déjà fait.
Il a déjà un savoir artificiel. Ouais.
C'était Aretha Franklin avec Think. On parlait tout à l'heure dans le jeu de société de ce jeu qui a été élu à la catégorie expert et qui avait commencé par un Kickstarter. Alors, il y en a beaucoup, hein, des comme ça. C'était le jeu, par exemple, Tainted Grail, qui a commencé en Kickstarter. Et c'est vrai qu'il y a un changement qui est fait dans l'industrie du jeu de société. Avant, lorsque vous vouliez que votre jeu soit connu, il fallait un peu faire beaucoup le festival, rencontrer des éditeurs et prier.
Trouver un gros éditeur qui a beaucoup de magasins.
Voilà, et on n'apparaissait pas en As d'Or, au Festival de Cannes, au Spiel, si on n'avait pas passé toutes ces étapes. Je pense que maintenant, avec Kickstarter, ce ne sont plus les mêmes personnes qui deviennent décisionnaires.
Kickstarter, oui, a permis à des auteurs de jeux de s'affranchir des éditeurs et aussi des magasins, puisque Kickstarter sert à la fois de droit de promotion, de financement, mais aussi de vente, puisque ça peut être de la précommande.
Quand tu as des éditeurs qui passent par Kickstarter, restent avec leur propre distributeur, mais quand tu as les personnes qui veulent s'auto-éditer et qui passent par Kickstarter ou par d'autres plateformes participatives s'auto-éditent grâce à ça, doivent après eux-mêmes distribuer leurs jeux. Donc, tu as aussi certains grands distributeurs des plateformes de jeux de société qui sont un peu chatons.
Tu fais déjà ta campagne de pub, tu fais déjà ton étude de marché, à savoir est-ce que ça plaît aux gens, est-ce qu'ils sont prêts, et du coup, ça rassure les éditeurs de voir un jeu qui a déjà été backé, et au bout d'un moment, eux vont se sentir un peu pressés de participer avant que tu puisses lancer ton projet toi-même. Et quand tu vas du coup dans un festival et que tu fais tester aux gens, c'est plus pour améliorer ton jeu maintenant que pour rencontrer les éditeurs, mine de rien.
À la base, les festivals te permettaient justement d'avoir des retours de personnes lambda qui ne te connaissent pas et qui te permettent d'avoir normalement jouer franc jeu avec toi. Ils vont être un peu gentils parce que voilà, ils viennent jouer à ton jeu, ils vont pas te casser le moral en disant que ton jeu c'est de la merde, mais tu viens rencontrer des gens que tu ne connais pas justement pour le playtester des centaines et des centaines de fois et d'avoir le maximum de retours possible pour l'améliorer et le rendre le plus fluide possible pour l'amener au test d'un éditeur potentiel que Kickstarter ne fait pas.
Avec le confinement et la généralisation des gens qui jouent en ligne, tu peux même faire ton jeu. Maintenant, ton proto, tu le fais en version digitale et tu le fais tester dans des parties en ligne. Donc, tu n'as même plus besoin d'aller dans les salons ou d'imprimer avec ton imprimante 3D ton proto de jeu.
Alors, tout à l'heure, tu parlais de BGA, Dominique, donc Board Game Arena. Et effectivement, l'auteur de jeu Xavier Georges, qui a déjà sorti plusieurs jeux connus comme 3, Tournée, Dark Angel plus récemment, en fait a sorti un jeu aussi, pareil, donc en Kickstarter, et qui est déjà disponible en fait sur BGA, donc le jeu ne sortira que dans quelques mois en version boîte, mais sur BGA vous pouvez déjà y jouer, donc c'est le jeu...
Ça va lui faire des dizaines, des centaines de parties de retour pour analyser, de voir ce qui se passe, s'il y a des bugs, s'il y a des problèmes, s'il y a toujours pas... Une stratégie qui gagne à tous les coups très facilement, ça peut arriver, ça, ce genre de choses.
Et le jeu s'appelle Carnegie et c'est excellent. Enfin, j'en ai fait une partie, je vous le conseille.
La prise de données des parties que tu fais sur un site informatique peut se faire automatiquement et te faire tes tableurs Excel, tes statistiques et compagnie. Ce que tu devais faire avant dans les festivals, c'est dire « Ok, ils sont 4 joueurs, j'en ai 4 dans ma case ». Est beaucoup plus instraignant. Là, tu peux avoir un croisement de données et pouvoir te dire tout de suite, ça te permet d'équilibrer ton jeu beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus sûre.
Après, même des auteurs très connus, comme Martin Wallace, par exemple, qui a sorti Steam, London ou Brass, ou bien Vital Lacerda, donc qui a sorti récemment On Mars, CO2 ou The Galerist avant. Donc des auteurs très connus qui ont vraiment leur public, hein. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent des jeux, à chaque fois les joueurs les achètent, les yeux fermés pratiquement. Maintenant, sortent des jeux presque uniquement en Kickstarter, effectivement, pour être sûr de ne pas se tromper et puis de l'équilibrer, comme tu disais, Reynald.
Et on va se quitter avec la chanson de Reynald pour ce thème des chanteurs disparus. Alors, Reynald, est-ce que tu peux coller un peu à cet esprit de la Saint-Valentin pour ta musique ?
C'est un chanteur disparu il y a quelques années déjà, il y a 18 ans maintenant. Enfin, bientôt 18 ans, disparu. Ça va coller au sujet de la Saint-Valentin et le titre...
Tant que ça, parce que je me souviens qu'il avait parti... Il faisait une voix dans South Park.
Ah,
il me semblait qu'il était mort plus récemment.
Et le titre de la chanson va coller au thème de l'émission d'aujourd'hui en plus. De son vrai nom qui était Baron Sojourn Carter, donc je veux parler de Barry White. J'ai choisi la chanson de son album Barry White Sings for Someone You Love, qui était sorti en 1977. Le titre de la chanson, c'est « Playing Your Games, Baby ».
Voilà, on se quitte avec du Barry White. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera encore un peu de jeux de société. Alors, peut-être pas aussi longuement, puisqu'ici, on était dans les jeux experts, hein, mais on partira dans les jeux pour enfants. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Heureusement en France. Restez avec nous sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Ciao.
À bientôt.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Radio Campus